Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. À un moment donné, j'ai eu peur. Je croyais que Guy allait prendre mon sermon. Donc, je me suis dit, je n'ai pas besoin de continuer. Mais ça va, il s'est arrêté à temps. Le thème que j'ai pris ce matin, le titre, c'est « Odeur, saveur, lumière ». Donc, voyez-vous, il avait presque piqué mon message. Je vais nous poser ce matin une question qui est importante. Quelle odeur avons-nous en tant que chrétien? Car un chrétien a une odeur particulière. Je ne sais pas si vous le saviez. Une autre question qui me vient à l'esprit, donnons-nous vraiment envie aux inconvertis de devenir chrétiens? Ou alors nous faisons partie d'un mouvement religieux, ayant certes de bons principes et des dogmes, une manière de vivre que nous aimerions imposer à nos concitoyens de gré ou de force, car nous trouvons que ces principes ont des bonnes valeurs. Mais en nous, il n'y aurait pas une odeur agréable ou une saveur particulière, ressemblant peut-être aux pharisiens de l'époque de Jésus, qui fustigeaient leurs semblables parce qu'ils ne pratiquaient pas la religion de la même façon qu'eux. Mais leur conduite était en horreur à Jésus, et Jésus ne supportait pas leur hypocrisie et leur fausseté. Est-ce que c'est ça notre façon de vivre? Est-ce que c'est ça pour nous qu'être chrétien? Disons ce que nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit ceci: « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers de nous, le parfum de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. L'odeur que nous dégageons en tant que chrétiens est fort importante. Nous avons une odeur de vie et non de mort. Nous devons sentir bon, comme on dit. Sentir bon le Christ. Par notre vie, par notre comportement, par notre façon de vivre, par notre façon de parler. Notre diffuseur de parfum doit avoir deux sorties. Une sortie pour les chrétiens. Nous devons nous reconnaître entre nous, notre façon d'être doit se remarquer. Cette bonne odeur dont nous parle l'apôtre doit se propager, se répandre autour de nous. Un parfum de connaissance, non pas une connaissance remplissant notre ego, mais remplissant notre cœur, âme et esprit. Une petite anecdote, je me suis retrouvé il y a quelques années ici, hospitalisé, et je rentre dans une chambre, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, et je m'installe dans mon lit, et puis il parle avec son épouse, et puis à un moment donné, sa femme lui dit « ça va pour l'opération ?»« Oh oui, merci Seigneur !» Oh, je me dis « ça, c'est un chrétien !» Et je lui ai posé la question « vous êtes chrétien ?» Il me dit « oui, je suis chrétien, et vous, moi aussi !» Et vous savez, quelques petits mots parfois nous font nous reconnaître entre nous. Et bien souvent, je ne sais pas si nous nous reconnaissons, si nous avons vraiment ce parfum, cette bonne odeur de Christ que nous répandons autour de nous. Et cette connaissance ainsi diffusée est une bonne odeur de vie, d'amour et d'encouragement. Cette odeur doit influencer nos frères et sœurs dans la foi. Par cette odeur, nous devons apporter un rafraîchissement dans nos assemblées. L'on doit dire de nous comme il est bon d'être avec lui. Comme il est bon d'être avec elle. Nous devons être appréciés par ce que nous diffusons. Nous devons, chacun de nous, apporter un plus par notre présence. Nous devons diffuser un contact apaisant, frères et sœurs, un contact de paix, d'amour, à contrario avec ce monde hostile et froid. Apportons de la chaleur dans nos contacts. Voilà l'odeur qui doit être la nôtre entre nous dans nos relations et dans nos assemblées. Mais cette odeur que nous répandons entre nous, nous devons la diffuser aussi envers les non-chrétiens. Et cette odeur de vie que nous diffusons envers le peuple de Dieu doit se transformer en odeur de mort envers les inconvertis. Vous allez me dire, oh là, tu vas un peu fort. Nous ne sommes pas des terroristes, une odeur de mort. Nous imaginons déjà que nous sommes armés de mitraillettes ou de grenades que nous allons lancer sur les non-chrétiens. Non, il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'être des terroristes ni des extrémistes. Et puis ensuite, ce n'est même pas moi qui le déclare, mais c'est la parole de Dieu qui dit ça. Cette odeur doit se transformer en mauvaise odeur, en odeur de mort pour les inconvertis. Et cette odeur de mort doit normalement leur sauver la vie. Ah oui? Surtout sur leur avenir éternel. Ils doivent, frères et sœurs, sentir que nous ne vivrons pas comme eux, que nous n'avons pas la même odeur qu'eux. Nous devons leur montrer notre différence. Et cela doit les faire réfléchir. Cette odeur, quelque part, doit les déranger. Pourquoi nous ne sommes pas comme eux? Piquer leur curiosité afin de les amener à la connaissance de la vie nouvelle que Jésus veut présenter au monde. Les non-chrétiens ne doivent pas rester indifférents à notre odeur. Nous devons vraiment provoquer un questionnement, un débat entre nous. Trop souvent, nous passons inaperçus auprès du monde. Et parfois, je me pose la question, me concernant et nous concernant, notre odeur aurait-elle tourné que l'on ne s'aperçoit plus de la différence entre les enfants de Dieu et les autres? Malheureusement, parfois, nous sommes transparents. Nous nous fondons dans la masse. Sommes-nous toujours la bonne odeur de Christ dans ce monde? Où notre parfum s'est-il dilué? Parce que nous vivons dans le compromis. C'est vrai qu'il n'est pas bon de se déclarer chrétien maintenant. On nous regarde d'une façon étrange. Je ne vais pas faire de politique ce matin. Il y a eu les élections, vous le savez, et je suis toujours intéressé par la vie politique. Parce que bon, elle s'intéresse à nous, alors autant s'intéresser un peu, à savoir par qui nous sommes dirigés et en quoi ils vont nous manger. Et j'ai entendu l'interview de Maxime Prévost, qui est le président des engagés, et on lui rappelait que auparavant, son parti s'appelait le PSC, qui était Parti Social Chrétien, après il est devenu le CDH, le parti humaniste, et maintenant, a encore changé de nom, il est devenu les engagés. Et on lui a dit, mais il n'y a plus rien de chrétien dans votre parti. Non, bien sûr, nous n'en avons plus d'étiquette chrétienne, mais si les chrétiens veulent voter pour nous, bien entendu, mais oui, voilà, on ne veut plus s'étiqueter chrétien. Ça serait dérangeant, ça leur ferait perdre des voix. Si le chrétien a une odeur, il a aussi une saveur, frères et sœurs. Qui mieux que le sel peut donner de la saveur? C'est pour cela que Jésus choisira cet exemple. Je ne vous apprendrai rien au point de vue alimentaire, le sel donne du goût à nos aliments. Hier, par exemple, ma chère épouse avait oublié de saler les pâtes. Distraite. Ça n'avait pas la même saveur. Attention, elle s'est aperçue. Oh, j'ai oublié de salir les pâtes. Eh oui, voilà. Donc, on sent tout de suite quand il manque du sel dans les aliments. Et ceux qui doivent faire régime sans sel ne me contrarieront pas en disant que c'est assez dur de manger ainsi. Résultat, votre nourriture manque de saveur et devient plus fade. Nous, les chrétiens, nous devons, comme il a été dit tout à l'heure, être le sel de ce monde. Vous voyez quelles sont nos responsabilités en tant que chrétiens ? J'ai lu un article indiquant qu'il y a plus de 14 000 usages d'utilisation du sel. J'ai été impressionné. Et quelques exemples étaient donnés. Entre autres, il est utilisé dans la fabrication du plastique. Je ne savais pas. Du polyester, du caoutchouc, dans la fabrication de l'eau de Javel, dans les fertilisants, dans les détergents, dans les colorants, etc. Le sel fait fondre la glace. Vous le savez bien. Quelle puissance qu'il a, le sel. Pensez à nos routes. En hiver, s'il n'y aurait pas de sel qui aurait été jeté sur les routes. Dans les siècles passés, il n'existait pas de frigo et le sel servait à conserver les aliments. Et dans certains pays moins développés que le nôtre, eh bien, on utilise toujours le sel pour conserver les aliments. Donc, il est important, au vu de sa grande utilité, en tant que chrétien, d'être ce sel. Et ce n'est pas par hasard que Jésus prend cet exemple. Comme nous avons vu toutes les utilités que le sel peut avoir dans la vie courante, le chrétien, dans toutes les circonstances dans la vie, doit être utilisé tout comme le sel. Nous devons avoir en nous ce sel, afin d'être une bénédiction pour notre entourage. Et nous allons voir brièvement quelques exemples dans la parole de Dieu des personnes ayant été du sel. Et l'exemple qu'ils nous ont laissé. Tout d'abord, je voudrais vous citer un verset de l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » La sainteté, la sanctification, vivre comme Jésus est une forme de sel pour nous chrétiens. Mais quel que soit, écoutez bien ceci, quel que soit notre style de vie que nous vivons, nous sommes le sel. Comment ? Vous allez dire, oui, je suis le sel de la terre, même si je ne vis pas d'une manière digne du royaume de Dieu, bien sûr. Oui, mais alors je suis du sel qui a perdu sa saveur. Nous sommes le sel avec sa saveur ou le sel ayant perdu sa saveur. Matthieu chapitre 5, verset 13, on l'a lu tout à l'heure, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Voilà comment Jésus nous juge si nous perdons notre saveur. À nous ce matin de faire le point, de savoir quelle est encore notre salinité. Sommes-nous vraiment ce sel qui a du goût et qui répandons ce goût autour de nous ? Ou sommes-nous ce sel, comme Jésus dit, qui doit être piétiné ? Quel drame pour celui qui a marché pendant des années en tant que chrétien et qui s'entendrait dire cela, je te piétine parce que tu n'as plus de saveur. Comme j'ai dit, voyons, un personnage qui, malgré tout ce que nous pouvons penser sur lui, a eu du sel et cela a influencé la vie autour de lui. Vous allez être étonnés de la personne que je vais prendre. Genèse chapitre 30, verset 25. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Et Laban, son oncle, lui dit, « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. » Ah, on est étonné de savoir que Jacob a été à ce moment-là une bénédiction. Et oui, pour son oncle Laban, la présence de Jacob pendant ces vingtaines d'années dans sa maison, par le travail qu'il a fourni, a été une bénédiction. J'ai été surpris moi-même, car Laban reconnaît la bénédiction de l'Éternel sur sa maison à cause de la présence de Jacob. qui fut un sujet de grâce tout au long de son séjour chez son oncle. Par son travail et son comportement, Dieu a béni une famille entière. Et pourtant, c'est vrai qu'à ce moment-là, Jacob n'avait pas encore fait cette rencontre décisive avec Dieu, où il a combattu avec Dieu, qui a transformé sa vie, transformé son avenir, et où son nom a été changé en Israël. Notre façon de vivre, frères et sœurs, notre exemple peut être une source de bénédiction pour notre entourage. Et je voudrais prendre un autre exemple très frappant d'une personne qui a eu du sel dans sa vie, Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères, jaloux de ce que quelque part Dieu le bénissait, Dieu se révélait à lui, et ses frères ont été très jaloux de la façon dont ce garçon vivait, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Et ce garçon pouvait être à bout, désespéré, frustré peut-être, pouvant même avoir envie de mourir. Il a été vendu et puis il se retrouve dans la maison de Potiphar, un personnage important d'Égypte. Et ce jeune homme est un exemple de sagesse, d'honnêteté. Quel exemple pour nous! Accusé à tort d'avoir abusé sexuellement sa patronne, il a refusé ses avances et elle, pour se venger, eh bien, elle a dit le contraire de ce qu'il n'avait pas fait. Et malheureusement, Joseph se retrouve en prison, il ne s'est même pas vraiment défendu. La parole de Dieu ne nous montre pas qu'il s'est vraiment défendu d'avoir été accusé à tort. Il se retrouve en prison. Et là, en prison, il est resté fidèle à Dieu. Il a été un exemple, il a été nommé responsable sur certains prisonniers, tellement que ce garçon montrait une saveur. Il avait du sel, il était un exemple. Et nous voyons comment Dieu l'a béni. Il sortira de prison par une manière miraculeuse et il dirigera l'Égypte. Dieu bénit ses enfants, frères et sœurs, qui sont fidèles. Ne perdons pas notre saveur. Ne perdons pas notre identité, même si ça peut nous coûter des ennuis, même si ça peut nous coûter les moqueries, la persécution, la prison peut-être. Restons salés, si je peux m'exprimer ainsi. Paul dira dans le chapitre 12 des Romains, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous conformons pas au monde actuel. Ne vivons pas selon l'air du temps, afin d'être à la page. C'est bien plus confortable, bien entendu, de vivre dans l'air du temps. On a moins d'ennuis, on vit notre petite vie chrétienne, tranquille. Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être appelés des conservateurs. Quand nous avons parfois des idées un peu rétrogrades, qui ne sont pas dans l'air du temps, nous sommes des conservateurs. Nous sommes des intégristes, des traditionalistes. Tous les termes en « iste » qu'on peut trouver nous concernant, parce que nous ne partageons pas les mêmes idées que ce monde. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout accepter sous le couvert de progressisme. Gardons notre goût, ayons du sel. Un dernier point que je veux partager avec vous, Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu, votre Père céleste. Jésus affirme nous concernant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La question qui me vient à l'esprit, le sommes-nous vraiment? Jésus affirme que nous le sommes, mais est-ce que notre vie, notre façon d'agir, fait de nous des lumières? On dit souvent « tu es une lumière quand on est intelligent ». Regardez-moi. Mais c'est pas ça, ça vous fait rire. Hein. Mais sommes-nous vraiment une lumière spirituelle dans ce monde? Ou alors nous cachons cette lumière? Nous sommes chrétiens, le revendiquons-nous? C'est vrai que maintenant il est coutume de ne pas trop faire étalage de sa foi, comme je l'ai déjà dit. Et on dit la foi, ça fait partie du domaine privé. C'est privé la foi, on ne peut pas parler, ça, c'est très privé. Voilà. Pas de signe ostentatoire. On l'a trouvé ce mot-là. Hein. S'il vous plaît, cachez cette croix que je ne saurais voir. Ah oui, ça vient à ce point-là. Le dictionnaire dit qui est fait avec ostentation, mis en valeur de façon excessive, qui est trop visible. Une croix, c'est trop visible. Un signe religieux ostentatoire. Un bijou ostentatoire, oui. On ne peut plus. C'est interdit, donc vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Mais ce n'est pas la joie du chrétien de vivre caché. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons plus trop afficher qui nous sommes. Nous ne pouvons plus trop afficher nos croyances, sauf certaines. Nous sommes dans un État laïque, s'il vous plaît. La laïcité doit être maintenue. Jésus nous dit, nous sommes la lumière. La lumière doit se voir. Si nous sommes dans la lumière, nous sommes donc vus. Voilà. Et malheureusement, avec tout ce que l'on dit sur le christianisme, certains cachent ce qu'ils sont par peur du regard des autres. Malheureusement, le christianisme n'a pas toujours été glorieux, malheureusement. Nous n'avons pas toujours été des lumières. Beaucoup de crimes ont été perpétrés au nom du Christ et sont encore perpétrés au nom de Dieu. Donc, on préfère rester dans l'ombre que dans la lumière par peur des critiques. Je lis la Bible depuis de nombreuses années, depuis mon enfance. Et parfois, comme je le dis souvent, on découvre des choses qui vous frappent des années après. Et je me suis dit, quel a été le premier acte créateur de Dieu? Ça va peut-être vous frapper. Genèse chapitre 1er, verset 3. Ceci est le premier acte créateur de Dieu. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Voilà. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au contact de Dieu, il y a la lumière. Les ténèbres s'effacent. Et vraiment, son premier acte de créer la lumière, car Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 5, verset 5 nous dit « Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dieu est lumière. Ceci, tout ce qui a trait à Dieu est lumière. Sommes-nous des enfants de lumière? C'est notre question. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 4 « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il parle de la fin des temps. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Ça, c'est notre identité de chrétien. C'est notre carte d'identité. Si on met notre carte d'identité chrétienne dans le lecteur, ceci doit apparaître. Que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas du monde de la nuit. Et il y a des gens qui ne vivent que la nuit, qui sont des adeptes du monde de la nuit. Ils ont peur du jour, ils n'aiment pas le jour. Nous ne vivons pas dans les ténèbres, nous sommes du jour en pleine lumière. Voilà notre identité. Jésus déclare que nous sommes la lumière du monde, car nous connaissons le Fils de la lumière. Il est important, frères et sœurs, que nous brillions dans ce monde de ténèbres. Nous voyons de plus en plus que la lumière du Christ dérange dans ce monde. Oui, il n'est pas bon de se déclarer chrétien. Malheureusement, par peur, bon nombre de chrétiens cachent cette lumière. Rien de ce qui est éclairé ne peut être caché, nous dit la parole. La lumière se voit. Et si nous éclairons le monde avec notre lumière, le monde verra qu'il vit dans le péché. Il verra ses défauts. Tout cela sera mis à jour. Et si nous éclairons leur vie et leur péché, il y a de fortes chances que certains viennent à la connaissance de la lumière et se convertissent. Voilà notre rôle en tant que chrétien. Notre ennemi, le diable, ne l'entend pas ainsi. Et il ne veut pas que d'autres viennent à la lumière. C'est pour cela qu'il travaille contre l'Église de Dieu, afin que nous n'ayons pas une bonne odeur, que nous n'ayons pas de sel, que nous ne soyons pas des lumières. Et nos églises occidentales s'endorment, se flétrissent, se désertent, sont fades, vivent dans le compromis, dans l'air du temps. Quelle différence entre l'Église persécutée et nos églises occidentales. Ces gens-là vivent dans la lumière. Et en vivant dans la lumière, ils en subissent les conséquences. Ils sont persécutés. Que nous, nous vivons dans un confort. Il ne faut pas trop choquer. Ne soyons pas trop spirituels à l'excès, certains diront, ni fanatiques. Voilà ce que notre ennemi susurre à nos oreilles, pour que nous puissions vivre tranquilles dans ce monde de ténèbres. Et Dieu dira, et je termine par cela, Dieu dira à son Église de Laodicée, et il dit encore à l'Église du 21e siècle ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Quel triste constat, quelle parole terrible que Dieu prononce contre son Église, qu'il peut encore prononcer contre l'Église du 21e siècle. Alors, je nous dis, réfléchissons à cet avertissement qui est toujours actuel. Nous portons sur nous une odeur. Nous avons en nous du sel. Nous rayonnons de lumière. À nous d'utiliser ces attributs qui sont en notre possession, c'est de notre ressort et de notre responsabilité. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être cette bonne odeur de Christ qui se répand autour de nous. Aide-nous à avoir cette saveur, ce sel qui a du goût et cette lumière dans ce monde de ténèbres. Seigneur notre Dieu, pardon de manquer de bonne odeur, de goût, de lumière. Viens remettre ces attributs à neuf, que nous puissions être des exemples dans ce monde, que nous puissions briller, avoir cette saveur que tu attends de nous. Bénis ton Église, Seigneur. Visite chacun d'entre nous ce matin. Remets-nous en question, que nous puissions vraiment vivre à ta gloire. Amen.